jour, de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour un voyage sidéral et sidérant aux frontières de notre univers. Sur les traces de tous les explorateurs de l'espace, ceux du 20e comme ceux du 21e siècle et au-delà. Jusqu'où irons-nous dans l'infini cosmos? Et à partir de quelle base? La Terre, la Lune, voire Mars et les milliers d'exoplanètes? Pourquoi et comment rêver et relever les immenses défis de cette exploration spatiale? Regard croisé de deux formidables explorateurs du cosmos, l'astronaute Michel Tonini, à son actif deux voyages dans l'espace, le premier à bord du vaisseau russe Soyouz et le second à bord de la navette américaine Columbia, et l'astrophysicienne Hélène Courtois, cosmographe, géographe de l'espace, qui a découvert et cartographié l'Aniakea, ce super continent cosmique, ce gigantesque amas de galaxies qui abrite notre Voie lactée et donc nous-mêmes, infime poussière d'étoiles dans une infinité de galaxies. De quoi nous donner le vertige autour de la question comment et jusqu'où explorer l'espace? Bienvenue pour nous projeter ensemble.
Je consacre ma vie à l'exploration spatiale. Et c'est à toi que je le dois.
Bonjour Hélène Courtois.
Bonjour.
Bonjour Michel Tonini.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être en direct avec nous. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Hélène Courtois en duplex depuis Lyon, depuis les studios de Radio France à Lyon. Et vous, Michel Tonini, en direct dans notre studio. Car vous deux, vous consacrez votre vie différemment, mais de la même manière à l'exploration de l'espace. Vous venez tous les deux de publier à quatre mains, Hélène et Michel, aux éditions d'Uno, Explorateurs de l'espace. Voyage aux frontières de l'univers, un ouvrage très documenté, très inspirant, dont nous avons, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous faire gagner. Avis aux amateurs. Michel Tonini, vous êtes astronaute, un des 10 Français à avoir voyagé dans l'espace et par deux fois en ce qui vous concerne. Une première fois en 1992 avec les Russes à bord de Soyouz sur la station spatiale Mir. Une deuxième fois avec les Américains, tiens donc, en 1999 en tant que spécialiste de mission sur la navette Columbia. Vous avez ensuite été chef de division des astronautes européens, puis chef du centre des astronautes européens de l'Agence spatiale européenne à Cologne, en Allemagne. À ce titre, vous avez participé au recrutement et à la formation de 6 astronautes, dont Thomas Pesquet. Aujourd'hui, c'est depuis la France que vous défendez l'exploration spatiale habitée. Une expérience, vous avez passé en tout, je crois, 18 jours en orbite autour de la Terre. Une expérience qui vous a changé, qui a fait le Michel Tonini que j'ai là en face de moi.
Changé pour beaucoup de choses, parce que tout d'abord, il a fallu que j'aille en Russie pour m'entraîner, donc apprendre le russe, apprendre aussi une culture différente. Faire confiance aux Russes pour accepter de monter dans la fusée avec eux, partager avec eux les choses intenses du vol de l'espace, et même chose avec les Américains. Donc c'est un voyage d'abord sur Terre à grande dimension, avant de le faire dans l'espace à grande dimension aussi. Et après, c'est l'expérience extraordinaire à deux points de vue qui sont extrêmement rares. D'abord, la vue de la Terre de l'espace, avec une façon de la voir extrêmement détaillée, des couleurs qui sont variées, des couleurs qui sont extrêmement riches, une beauté de la Terre, associée à une fragilité de la Terre, un constat sur cette petite couche d'atmosphère qui fait à peine 100 km, donc qui est vraiment minuscule lorsque nous sommes dans l'espace. Hein, c'est vraiment 100 km, c'est vraiment très très peu par rapport à la taille de la Terre, et donc ce sens de la fragilité, et après la vue des astres, des étoiles, des planètes qui ont toutes des couleurs différentes en fonction de leur température et de leur âge, et puis aussi l'être en apesanteur, avec le côté adaptation de l'être humain en apesanteur, qui est d'une surprise par rapport à ça, parce que tous les jours on apprend, c'est comme si on était juste né et on apprend à marcher, mais on ne marche pas, on est dans l'espace, donc on apprend à voler dans l'espace ou à se déplacer dans l'espace. Donc c'est un apprentissage à faire et qui est sympathique, parce qu'on se rend compte que on s'adapte très bien, et au bout de même pas 15 jours, on est complètement déshabitué avec nos repères terrestres.
Et après, il faut se réhabituer quand on arrive sur Terre dans la vraie pesanteur, donc, enfin, retrouver la gravité.
Donc une grande découverte sur beaucoup de domaines.
Alors, comme Thomas Pesquet que vous avez formé, Michel Tonini, comme Neil Armstrong, Buzz Aldrin, vous avez eu droit, depuis l'espace, à une conversation particulière avec votre chef d'État, François Mitterrand à l'époque. Allô la Terre, ici l'espace, mix astronomique et diplomatique.
I'm talking to you from the Oval Room at the White House.
Allô Neil, allô Buzz, je vous parle depuis la salle ovale de la Maison Blanche et c'est sans aucun doute le coup de téléphone le plus historique qui ait jamais été donné.
Thank you, Mr. President. It's a great honor and privilege for us to be here.
Merci, Monsieur le Président. C'est un grand honneur et un privilège pour nous d'être ici, de représenter non seulement le peuple américain, mais les hommes pacifiques de toutes les nations.
Et vous êtes à quel endroit? Au-dessus de la planète? En direction de la Manche et de la France, je sais. Mais vous n'y êtes pas encore. Entre la France et la Russie. Ça tombe bien. Hein? Voilà.
Bonjour Thomas, bravo, bravo, vraiment bravo à vous. On est tous très fiers.
C'est très gentil, je vous remercie d'avoir pris le temps d'assister à ce retour et puis de m'appeler.
Bon, comment vous vous sentez?
Eh bien écoutez, ça va très bien, je me réhabitue doucement à la gravité. On va très très bien, merci beaucoup.
Michel Tonini, vous voulez réagir? On vous a entendu très peu de loin, parce que François Mitterrand, moi j'ai vu l'extrait, enfin la vidéo, on le voit lui, on a l'impression qu'il n'arrivait pas à attendre le temps de la communication depuis l'espace jusqu'à la Terre.
Alors, j'avais fait un grand discours pour le président Mitterrand, et il m'a écouté, c'était un peu un monologue, j'ai pas été très sympa avec lui, parce que je lui ai dit, vous voyez la différence par rapport aux Russes qui ont un programme spatial soutenu, nous en France on est juste des partenaires et des passagers, alors qu'on a quand même les moyens d'avoir une place à part entière dans l'espace. Alors je lui ai fait un peu ma tirade à moi, qui était un peu pas une critique, mais bon, j'étais un peu agressif par rapport à lui, et il a réagi très très bien, surtout que je l'avais connu déjà longtemps à l'avance, lors du décollage de Jean-Luc Chrétien à Baïkonour, où j'étais à ses côtés pour lui expliquer les séquences principales du décollage de la fusée. Et je sais qu'il était très intéressé par l'espace, qu'il avait pris la peine de venir à Baïkonour, qui est un long voyage quand même assez compliqué. Il était venu à Baïkonour pour voir ce
et aujourd'hui, les Européens et les Français ont une belle part et une vraie part dans cette...
Oui.
Alors, vous n'aimez pas dire conquête de l'espace, hein,
Le mot conquête est un mot conquérir. Vous voyez, c'est un mot un peu agressif, alors que je suis plutôt pour la quête, c'est-à-dire le savoir. Qu'est-ce qu'on peut apprendre?
La quête de l'espace. Alors, on garde maintenant les pieds sur Terre et toujours la tête dans les étoiles, jusqu'aux confins de notre univers, avec vous, Hélène Courtois. D'abord, merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Lyon. Vous êtes Hélène Courtois, professeure à Lyon, vice-présidente de l'Université Lyon 1. Vous dirigez l'équipe de recherche en cosmologie à l'Institut de physique nucléaire. Vous êtes, on peut le dire, une des astrophysiciennes françaises les plus célèbres internationalement et pour cause. En tant que cosmographe, géographe du cosmos, c'est vous qui êtes à l'origine de la découverte de l'Aniakea, le plus gigantesque amas de galaxies connu à ce jour, qui contient la Voie lactée et tout notre système solaire. C'est vertigineux, un peu comme un ensemble de poupées russes, sauf qu'il s'agit de milliards de galaxies que vous avez réussi à cartographier, Hélène. C'est une traque totalement sidérale et qui semble impossible.
Ben, si, c'est possible. Et oui, c'est ce que je fais. C'est, je repère des galaxies dans le ciel et une fois que je les ai repérées, leurs coordonnées, je vais au télescope et je mesure leur distance pour les positionner sur des cartes. Et effectivement, ça peut paraître vertigineux, mais je vous assure que tout le monde peut comprendre parce que là, à la fin de la semaine, je vais faire un atelier de cartographie, enfin de cosmographie, avec des jeunes dans le bassin parisien.
Oui, ce sera au Festival Atmosphère, hein, Courbevoie,
oui,
c'est ça.
Oui, voilà. Au Festival Atmosphère, il y a un atelier de femmes scientifiques. Chacune amène des expériences pour faire toucher leur science. Et avec moi, on va faire de la cosmographie, et juste avec des papiers, des crayons et même de la laine. Et vous allez voir que tous ces jeunes-là, quand ils vont repartir, ils sauront écrire leur adresse universelle, c'est-à-dire quelle est ma place dans l'univers et comment est-ce que j'écris une carte postale à partir d'ici jusqu'au fin fond de l'univers. Donc c'est possible, c'est vrai que c'est votre analogie des poupées russes, elle est vraiment très bonne. Parce qu'on vit sur une planète, la Terre, qui tourne autour d'une étoile, le Soleil. Et ce Soleil fait partie de 100 milliards d'autres étoiles qui constituent notre galaxie, la Voie lactée. Et la Voie lactée n'est pas toute seule dans l'univers. Elle vit avec 1 million d'autres galaxies dans ce super continent qu'on appelle l'Aniakea.
L'Aniakea, pourquoi ce nom, Hélène Courtois?
Alors c'est un hommage aux Polynésiens qui savaient naviguer aux étoiles, qui savent toujours naviguer aux étoiles. Et ils avaient une très bonne connaissance de leur ciel, des courants. Et nous, c'est en regardant les courants de matière, c'est-à-dire comment se déplacent les galaxies, que l'on arrive à repérer toutes celles qui font partie d'un même ensemble. Donc c'est un petit peu comme si on regardait des routes, des voitures sur une route, sur une autoroute. Et toutes celles qui vont dans la même direction, par exemple vers un centre-ville, et bien on sait qu'elles appartiennent à un même département ou à un même bassin versant de voitures.
Ah oui, je rappelle que là, vous parlez de l'espace, hein, de notre
voilà,
cosmos.
Voilà, c'est dans l'espace, c'est pas des voitures, c'est des galaxies qui se déplacent. Mais bon, elles se déplacent à des vitesses faramineuses. Un autre galaxie va à 2 millions de kilomètres heure dans l'espace. Et c'est pas très grave, ça nous décoiffe pas. Et on a toujours vécu comme ça, et on vivra encore très longtemps comme ça.
Et donc, dans cet immense amas de galaxies qui s'appelle l'Aniakea, ça veut dire, pour les Hawaïens, horizon céleste immense. Oui. Et c'est le moins qu'on puisse dire, hein, immense. Pour avoir une idée aussi de sa taille et de notre adresse dans l'univers que vous allez nous donner, je vous propose d'abord d'écouter la youtubeuse de l'univers, carrément, Florence Porcel.
C'est un continent cosmique nommé l'Aniakea. Pour vous donner une idée de la grandeur démesurée de cette immense structure, elle regroupe plus de 100 000 galaxies sur 500 millions d'années-lumière de large. Et nous, on se trouve en périphérie. On est au bord du superamas de la Vierge, lui-même situé à l'une des extrémités de l'Aniakea. Voilà donc où on se situe dans notre petit coin d'univers.
Alors grâce à vous, Hélène Courtois, on connaît maintenant notre adresse dans l'univers, mais enfin on est complètement à la périphérie, hein. C'est pire que la banlieue, hein, là où on est nous.
Ben, on est bien là où on est.
Parce on est fait, bien, merci.
Oui. Parce que, par exemple, effectivement, on est un petit peu sur le bord de la galaxie, mais ça nous permet de voir l'univers à l'extérieur. Alors que si on était plus près du centre de notre galaxie, on aurait vraiment un ciel étoilé très, très dense. Et on aurait du mal à décrypter notre histoire comme on le fait aujourd'hui. Mmh. Donc, les cosmologues, les astrophysiciens cosmologues, c'est un petit peu les profs d'histoire géo de l'univers. On cherche à comprendre l'histoire de l'univers en comprenant la géographie, donc on appelle ça la cosmographie.
Et vous étudiez les grandes structures, c'est ça, les grandes structures, les grandes structures de l'univers.
Oui, oui, c'est ce qu'on appelle les grandes structures parce que c'est les plus grandes structures. C'est-à-dire que au-dessus de ça, au-dessus des chaînes de galaxies, des filaments de galaxies, des superamas, eh bien les choses se répètent. C'est un pattern, un design, un assemblage en fait qui ne fait que se répéter. Donc ce sont les grandes structures de l'univers et elles sont nées sous les forces contraires de deux titans dans l'univers qui sont la gravitation et l'expansion. Donc l'expansion tend à éloigner les galaxies les unes des autres et puis la gravitation, eh ben, c'est comme nous quand on a voulu apprendre à marcher, comme disait Michel tout à l'heure. La gravitation, c'est ce qu'on expérience sur la Terre, c'est cette force qui nous attire. Donc ça attire les galaxies ensemble.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux forces contraires, deux titans contraires, c'est ça ?
Voilà, s'il n'y avait que la gravitation, c'est assez facile de se l'imaginer, s'il n'y avait que la gravitation, depuis les 13 milliards d'années de l'univers, toutes les galaxies seraient au même endroit, ça sera un gros grumeau. Mmh. Et puis s'il n'y avait que l'expansion, eh bien, elles auraient toutes volé très loin les unes des autres. Et c'est parce qu'il y a ces deux forces qu'il y a toute cette architecture qui est une sculpture vraiment à trois dimensions et même on dit à quatre dimensions, parce que les galaxies bougent à l'intérieur de ces structures. C'est un petit peu, les gens se la représentent parfois comme une mousse de bulles de savon. Voilà, comme quand vous êtes dans votre bain, dans un bain moussant, on habite sur une bulle comme ça. Toutes les galaxies sont sur des bulles, entourant des grandes zones de vide dans l'univers sans galaxies.
Fascinant, vertigineux autour de la question comment et jusqu'où explorer l'espace, hein, cet espace, ces bulles de savon qui se répètent, enfin, et qui ne cessent de se révéler plus vastes hein, qu'on l'imaginait. Nouvelle question tout de suite pour vous, Hélène Courtois, soulevée par Philippe Hénarejos, rédacteur en chef du mensuel Ciel et Espace.
Après avoir exploré en détail le voisinage de notre Voie lactée, où comptez-vous poursuivre l'exploration de l'univers? Est-ce que c'est juste un peu plus loin ou est-ce que vous allez vous attaquer aux grandes structures?
Votre réponse, Hélène Courtois.
Alors effectivement, je m'attaque à beaucoup plus loin en ce moment, grâce à un télescope spatial européen que l'on construit à 13 pays européens, 1200 chercheurs, qui s'appelle Euclide. Et on essaye de comprendre effectivement un petit peu la géométrie de l'univers. Et là, on va à plus loin que la moitié de son âge. Donc tout à l'heure...
Oui, parce que plus on voit loin et plus on remonte, plus on remonte dans le temps. Oui, oui, allez-y.
Exactement. Et ce qu'on essaye de faire, c'est un petit peu de mesurer, c'est même exactement de mesurer ce qui s'appelle le taux de croissance des grandes structures. Donc c'est comme si je regardais un enfant et que je mesure sa courbe de croissance sur son carnet de santé. En fait, je vais prendre une grande structure que je vois très très loin dans l'univers, et puis je vais mesurer les mêmes grandes structures ou similaires de plus en plus proches de moi, et je vais obtenir leur courbe de croissance. Et la courbe de croissance, eh bien, c'est exactement ces deux effets contraires qui jouent. Donc c'est un petit peu comme si je donnais d'une main beaucoup à manger à un enfant et de l'autre je lui faisais faire beaucoup de sport. Ces deux effets un petit peu contraires. Eh bien, la gravitation et l'expansion, ça fait croître les structures, et c'est ce qu'on essaye de mesurer avec ce nouveau télescope Euclide qui va être lancé depuis Kourou. Dans maintenant, on n'est plus qu'à 2 ans du décompte du lancement par une Ariane 5.
Et vous en attendez beaucoup, j'imagine. C'est étonnant quand même quand on vous entend, Hélène Courtois, parce que ça paraît simple. On comprend, on imagine, on voit presque même. Et vous le dites, vous allez dans cet atelier avec des petits bouts de laine et un papier et un crayon faire dessiner l'univers. Mais du coup, on se demande, Michel Tononi, quel est l'intérêt d'aller plus loin, d'aller dans l'espace, puisqu'Hélène Courtois, sur Terre, avec ses calculs, avec des télescopes de plus en plus grands, enfin avec, elle arrive à observer jusqu'à la moitié de l'âge de l'origine de l'univers.
Alors c'est deux choses qui pour moi sont complémentaires. Il y a la connaissance à très très longue distance, et puis il y a ce que l'on peut faire à plus courte distance. Et nous aujourd'hui, à plus courte distance, on est toujours autour de la Terre à 400 km. Ça peut paraître très très court par rapport aux distances des grandes galaxies qui nous entourent. Mais on a réussi à travailler, à démontrer qu'on a fait des vols au départ de 1h30, puis on est monté doucement jusqu'à 6 mois. On a même fait des vols de 14 mois. Donc on sait maintenant contenir les effets néfastes de la pesanteur sur le corps humain, sur la psychologie. Donc on connaît beaucoup plus l'être humain pour pouvoir aller plus loin. Et plus loin pour nous, ça va être malheureusement pas très très loin, ça sera la Lune. La Lune qui est à...
Pour vous, c'est pas loin. Ça,
c'est moins de 400 000 km. Ouais. Ben, c'est un peu la banlieue de la Terre. Mmh. Et on n'est pas encore allé sur Mars. Et même, je regardais autre chose sur un journal, si on veut aller sur la Lune, eh bien, on aura tellement de radiation qui vient du Soleil qu'on serait limité à 40 jours environ pour ne pas être trop brûlé par ces radiations. Donc on en est au balbutiement. On n'en est pas encore au point de sortir même de notre système solaire. Mais on a réussi à faire beaucoup de choses en très peu d'années. En 60 ans, on a réussi d'abord à démontrer qu'on peut aller dans l'espace, à travailler ensemble. On a cette station spatiale.
Ouais, ça, c'est extraordinaire quand même.
Nous coopérons, russes, américains, européens, japonais, canadiens. On a réussi à faire des réparations dans l'espace. Donc si un jour on a besoin d'intervenir sur une structure dans l'espace, on pourrait le faire. On a réussi à faire beaucoup de choses, à déployer des télescopes, à récupérer des télescopes pour les réparer aussi. Et dans le futur, pourquoi pas, on ira peut-être aller sur un astéroïde pour le dévier de la trajectoire de la Terre et sauver la Terre.
Ah oui, parce qu'il y a ça aussi, il y a quelques dangers qui nous menacent, comme les astéroïdes. Et là, peut-être que les vols embarqués, enfin les vols avec des humains, pourraient nous aider à contrecarrer cette menace qui, alors là, nous anéantirait pour le coup complètement.
Alors, nous anéantir, ce sont les gros, gros astéroïdes qui pourraient nous anéantir, comme ils ne s'en passent pas vraiment régulièrement. Mais on peut dire quand même que tous les 100 ans, il y a deux chocs assez importants d'astéroïdes qui sont mortels. Donc, on voudrait protéger la Terre de ces éléments qui sont néfastes.
Alors tout ça semble extraordinaire, sauf que ça coûte cher, l'exploration spatiale.
Dans un sens, ça coûte cher, mais aujourd'hui, on a ubérisé l'espace au niveau des vols spatiaux. Et nous, par exemple, en Europe, pour avoir notre infrastructure spatiale avec notre module Columbus, qui est quand même notre maison scientifique spatiale à nous, Européens, donc vous pouvez y aller faire des expériences si vous voulez, pour avoir la TV qui a permis de ravitailler la station spatiale et de payer le lancement de Columbus, et pour voir le lancement d'Ariane 5 et nos astronautes européens, dont Thomas Pesquet, et bien tout cela vous coûte 1 euro par an et par européen. Même moins, un peu moins d'un euro par an. Donc c'est pas vraiment très cher. C'est cher, sauf qu'on a partagé la facture entre tous les pays, donc c'est moins cher.
Autour de la question comment et jusqu'où explorer l'espace en musique, Michel Tononi, voilà ce que vous écoutiez dans la station spatiale Mir avec vos collègues astronautes russes. Bye bye Milky Way, le groupe Enigma sur RFI.
J'ai la gueule, j'ai la stèle, 107 light years away, many times, so many doubts, but no reason to talk about.
Enigma sur RFI autour de la question comment et jusqu'où explorer l'espace en compagnie de nos deux explorateurs de l'espace, l'astrophysicienne cosmographe Hélène Courtois et l'astronaute Michel Tonini. Je vous rappelle, chers amis auditeurs, qu'un exemplaire de leur ouvrage sur les explorateurs de l'espace est à gagner si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Et pour vous donner encore plus envie de le lire, racontez-nous donc, Michel Tonini, ce morceau qu'on entend, Bye Bye Milky Way, dans quelles conditions vous l'avez écouté?
En 92, j'avais amené pas mal d'affaires personnelles. On est limité à 1 kg.
Dans l'espace.
1,5 kg dans l'espace, dans les Soyouz. Et j'avais amené à l'époque des DVD de musique ou des CD de musique, dont Enigma. Et dans la journée, on écoutait la musique pour le sport ou bien le soir pendant le repas.
Dans la station spatiale
Mir. Dans la station Mir, parce qu'on dînait ensemble et puis on parlait un petit peu de nos petites histoires ensemble. Et les Russes avaient beaucoup aimé, en particulier Enigma. J'avais amené aussi Le Grand Bleu, ils avaient beaucoup aimé tout ce que j'avais amené. Et donc, j'aurais laissé là-haut parce que je n'avais pas la place de tout ramener au sol. Et le jour où on a quitté la station, donc on rentre dans le vaisseau spatial en scaphandre, on se sépare de la station spatiale, on fait toutes les vérifications de paramètres, et là il y a un temps qui dure environ 3/4 d'heure avant qu'on allume les moteurs pour se séparer. Et dans ce grand silence, dans le noir sidéral, noir au niveau visuel et au niveau du son, les Russes m'ont fait la surprise, ils ont lancé la musique Enigma qu'on avait tous écouté ensemble. Alors c'était un clin d'œil à nous deux, mais c'était extrêmement émouvant.
Ça va être extrêmement fort. Le noir sidéral, c'est le noir total.
C'est un noir qu'on ne peut pas imaginer, c'est un noir total, oui.
Et
c'est
vous êtes tout seul, là, dans cette...
Alors, on était trois.
Vous étiez trois dans la capsule Soyouz.
Dans le scaphandre, vous êtes prêt à rentrer avec votre équipage, vous attendez à rentrer, vous êtes encore en train de flotter dans l'espace, mais vous êtes attaché dans votre siège, qui est très petit, et cette musique arrive, vous êtes vraiment surpris par cette musique. C'était une surprise qu'il m'avait fait.
Quelle émotion, est-ce qu'après on arrive sur Terre à... Enfin, à vivre, oui, bien sûr, mais après avoir vécu des moments pareils, qui sont totalement uniques, vous êtes très rare sur Terre à les avoir vécus, ces moments-là. Comment est-ce qu'après on rejoint le plancher des vaches?
Alors, non, dans la vie, on peut très bien arriver à des moments où on passe par des émotions très grandes. Hein. J'étais avec un collègue hier qui est allé faire un safari photo au centre de l'Afrique, il a dormi avec des lions, donc c'est des choses intenses. On a tous la capacité d'être confrontés à des expériences intenses qui vous enrichissent, qui vous font du bien, dont l'espace en est une qui est rare, bien sûr. Mais quand on revient sur Terre, eh bien c'est quand on revient chez soi, on reprend la vie normalement.
Et vous avez été, vous, dans l'espace, on l'a dit, avec les Russes, oui, et avec les Américains. Oui. Il faut quoi, apprendre à vivre? Parce qu'en plus, dans ces cas-là, vous êtes dans des espaces extrêmement confinés. Oui. On a vu aussi revenir Thomas Pesquet. Vous avez allez d'ailleurs partir plus tôt de notre studio parce que vous donnez des conférences à des chefs d'entreprise sur, sur la manière de manager en lien avec ce que vous avez vécu vous-même. Dans l'espace, c'est quoi? C'est une sorte de fraternité obligatoire? C'est un apprentissage humain?
C'est plusieurs choses. C'est d'abord des qualités humaines à avoir, des valeurs humaines à avoir qui sont assez importantes. C'est aussi l'adaptation, savoir que, quelles que soient les conditions, on arrive à s'adapter, chose que l'on refuse de croire lorsqu'on est sur Terre. Et c'est aussi
c'est-à-dire que vous avez connu des... Vous avez dû vous adapter à tout et, ah oui, et il arrive plein de choses dans l'espace. Enfin...
Mais de toute façon, on est obligé de s'adapter à la pesanteur, au mal de l'espace, au fait que le sang va partir des pieds vers la tête, au fait que la tête va gonfler, les pieds, les jambes vont diminuer, le cœur va changer de forme, l'estomac va changer de forme. Tout le corps change, est en pleine mutation, et le corps s'adapte complètement. Le cœur droit va légèrement augmenter, le cœur côté gauche va légèrement diminuer, l'ensemble du cœur dans l'espace va se rétracter tout doucement, et quand vous revenez sur Terre, ça se réadapte. Donc, il faut
On arrive à se préparer à ça, parce que c'est
pas
des
vraiment,
changements.
Mais pas non. Vraiment, parce qu'on n'a aucune condition sur Terre qui simule l'apesanteur sur une durée aussi longue. On peut le faire sur 20 secondes en vol 0G, on est vol parabolique, mais on ne peut pas le faire sur des durées très très longues. Donc on doit le faire in situ.
Et du coup, on écoute l'expérience. Par exemple, Thomas Pesquet a écouté votre expérience d'astronaute. On écoute celle des grands frères qui sont déjà allés dans l'espace.
Il écoute l'expérience, comme tous ont écouté. Et puis, il y a un entraînement qui est très très long. Pesquet a été recruté, je crois, en 2008-2009. Je l'ai recruté en 2008-2009. Il a volé presque 10 ans plus tard. Donc, il avait beaucoup de temps pour s'entraîner. Et il a profité de toute cette longue durée pour apprendre le plus de choses.
Est-ce qu'il y a des séquelles quand on revient sur Terre? Alors, quand on a passé 18 jours en orbite en tout comme vous, ou comme Thomas Pesquet quand on a été plusieurs mois dans la
station? Sur des vols courts, il n'y en a pas. Sur des vols longs, il n'y en a pas non plus. Sauf qu'aujourd'hui, vu que nos appareils scientifiques et médicaux sont extrêmement précis, on a trouvé sur quelques astronautes des déformations du fond de l'œil et des pertes d'acuité visuelle qui sont parfois irréversible. Donc on travaille là-dessus aujourd'hui parce que c'est une découverte nouvelle. On fait des vols longs depuis maintenant presque 30 ans, mais ces problèmes sur les yeux sont des problèmes qu'on a découverts récemment. Pas forcément à cause des personnes qui se plaignent, mais parce que nos appareils sont très très précis. On s'est rendu compte qu'il y a un petit problème au niveau du nerf optique. Donc on travaille dessus en ce moment. Et comme de toute façon on vole assez âgé et qu'après 40 ans, en général, on porte des lunettes, on ne voit pas trop la différence.
Autour de la question, pourquoi et comment explorer l'espace, prendre de la hauteur peut-être sur la Terre et sur nous-mêmes? Écoutez voir Michel Tonini ce que cela inspire, est-ce que cela a inspiré un autre astrophysicien humaniste, le professeur Pierre Léna, pionnier de l'optique adaptative et de l'interférométrie.
C'était il y a une bonne vingtaine d'années et sur le plateau de la Marche du siècle figurait un cosmonaute soviétique qui avait à l'époque été l'homme le plus longtemps dans l'espace, plus de 6 mois. Et je lui avais posé la question à l'antenne, au fond, après cette longue période dans l'espace, qu'est-ce que vous retenez? Et il m'a fait une réponse surprenante, il m'avait dit « connais-toi toi-même ». Et je lui avais dit, mais c'est le Gnotis et Auton du temple d'Apollon à Delphes. Vous rejoignez la Terre vue de là-haut, vous rejoignez une réflexion de la sagesse grecque il y a 25 siècles, c'est magnifique. Il avait été très étonné. Donc je reposerai volontiers la même question à M. Tonini, qui est avec vous aujourd'hui.
Votre réponse, Michel Tonini.
Alors, je rejoins un petit peu cette réponse, mais pour moi, ce qui est important dans ces vols spatiaux, ce qui a changé, c'est quand même qu'on a travaillé. On a travaillé, nous particulièrement, dans mes vols. Entre voler avec les Russes, j'ai volé en 92. Au moment où les Russes signaient l'accord de coopération en 93 sur la Station Spatiale Internationale, et je suis arrivé à la NASA en 1995, au moment où on travaillait sur cette coopération entre Russes et Américains. Et je peux vous dire que quand je suis arrivé à la NASA, certains Américains de la NASA n'étaient pas tellement en faveur de cette coopération. Donc je me suis dit que ça allait être compliqué de coopérer entre Russes et Américains. Et on a réussi à faire coopérer les ennemis. Et aujourd'hui, on a quand même un pont aérien entre Russes et Américains, une station spatiale internationale, qui a commencé par cette mission incroyable, Apollo Soyuz, hein, qui s'est faite dans les années 75, qui a permis à deux êtres russes américains de maintenir des liens d'amitié jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour, qui permet d'avoir aussi une paix sur Terre. Donc la paix que nous avons aujourd'hui entre Russes américains et également pour nous les Européens, elle vient un petit peu de la paix qu'il y a entre Russes américains, qui a été aidée quelque part par l'espace. Donc il y a un rôle à jouer. Aujourd'hui, il y a M. Poutine et M. Trump, ils téléphonent surtout pour parler de choses parfois
terriblement
difficiles.
Terriblement terrestres et difficiles.
Mais il y a quand même un petit point toujours sur la coopération spatiale, la station spatiale, notre maison commune spatiale, qui est vraiment très importante, qui est interdépendante. Hein, comme vous savez, les Russes dépendent des Américains et vice-versa. Donc cette station, elle est vraiment... Bien faite dans cette coopération. Et quand un astronaute américain va dans l'espace aujourd'hui, il prend le Soyouz russe. Donc c'est un travail pratiquement régulier qui se fait entre Russes et Américains.
Ça bouge, ça évolue. Effectivement, il faudrait que notre humanité elle évolue aussi vite que notre technique, ce qui n'est pas toujours le cas, sauf peut-être pour ces astronautes que vous recrutez, autant sur la qualité humaine que sur leur qualité scientifique, technique, et cognitive. On pense aussi au niveau géopolitique à la Chine, hein, nouvel acteur spatial. Vous lui consacrez d'ailleurs un chapitre dans ce livre sur les explorateurs de l'espace. Est-ce que pour le coup, on peut rêver à ce que là-haut, dans l'espace, on aille vers plus de coopération, de fraternité? Vous y êtes obligé quand vous êtes ensemble dans une station spatiale ou dans un petit vaisseau ou une petite navette.
Dans les plans que je présente toujours quand je fais des conférences, je parle toujours d'une station à 7 partenaires. Donc les 5 d'aujourd'hui, plus la Chine, plus l'Inde. Donc à ce moment-là, tous les continents seront rassemblés dans l'espace. Ce n'est pas encore fait, mais par exemple les Chinois, ils ont des taïkonautes qui ont commencé à faire des vols dans l'espace. Ils ont leur propre fusée, ils ont leur vaisseau Shenzhou qui fonctionne bien. Ils ont déjà eu 2 petites stations spatiales. Mais nous avons déjà commencé une coopération au niveau européen entre les astronautes européens et les taïkonautes. Donc ils viennent chez nous s'entraîner, on va chez eux s'entraîner. Donc on commence les liens de coopération.
Et là encore, il y a une autre culture, enfin d'autres, évidemment.
C'est une autre culture, mais... Ça se passe très très bien avec les Chinois de notre côté.
Et pourquoi? Comment vous expliquez comment ça peut se passer bien? Parce que ce sont des gens passionnés qui travaillent dans le même sens. Qu'est-ce qui fait que ça se passe bien?
Une vision commune qui est associée à une confiance qui se fait de jour en jour. Quand je vois l'exemple des Russes et des Américains au niveau spatial, cette confiance n'a jamais été trahie. Et on commence maintenant avec les Chinois. Et on attend, bien sûr, on fait attention à cette coopération, mais elle se passe bien à notre niveau. Là, je pars cette semaine, je pars à Houston pour le congrès des astronautes. Il y aura également des Chinois qui seront avec nous et qui vont présenter leur projet. Donc on travaille à notre niveau de notre association des explorateurs de l'espace à cette coopération qui est globale.
On a l'impression tout de même, Hélène Courtois, quand on vous écoute, quand on écoute Michel Tonini et tous les acteurs du spatial, qui nous ont dit aussi à quel point le fait de voir la Terre d'en haut avait peut-être fait naître la conscience écologique aussi, qu'il y a quand même quelque chose à rechercher, et c'est peut-être que vous essayez de faire passer dans le fait de voir la Terre d'en haut. C'est-à-dire de voir à la fois la chance qu'on a, mais notre fragilité, qu'on est complètement perdu dans cette infinité de galaxies. Vous avez ce sentiment-là aussi, Hélène Courtois?
Alors il y a un petit peu deux écoles à ce niveau-là, c'est assez amusant d'ailleurs parce que c'est vrai qu'on n'a jamais vu un arbre ailleurs.
Ailleurs que sur Terre, hein, ouais.
Voilà, on n'a jamais vu. On pense qu'on commence à repérer, c'est ce qu'on cherche, des signes de respiration biologique, donc des défauts d'oxygène ou de CO2 dans des atmosphères de planètes qui ne sont pas très loin de la nôtre en réalité dans la galaxie, parce qu'on ne peut pas voir ce niveau de détail très loin. Mais il y a un petit peu deux façons de voir les choses, parce que dans notre galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles, donc peut-être 100 milliards de planètes, il y a 100 milliards de galaxies dans l'univers, donc notre planète est unique, oui et non, en fait. Et elle est fragile, certainement, elle est importante, certainement, mais est-ce que nous sommes vraiment importants? c'est une vraie question, en tout cas, pour nous, il n'y en a qu'une. Pour nous, il n'y en a qu'une. Michel l'a très bien dit. On peut voir loin, on peut se déplacer par la pensée, par des photos, par de la technologie. Mais physiquement, c'est très, très compliqué de se déplacer. On n'ira jamais très loin. En tout cas, moi, je sais que je ne suis pas candidate pour aller sur Mars. Parce que je tiens à ma peau. Donc, j'irai bien sur la Lune, ça, il n'y a pas de souci.
Ah oui, c'est ça.
Mais vous sur Mars, c'est beaucoup trop long. On ne maîtrise pas ce genre de danger pour des organismes biologiques vivants. Donc, cette planète, en tout cas, la sauvegarder, c'est sauvegarder notre espèce du temps qu'on peut la sauvegarder, peut-être entre deux météorites importantes, comme le disait Michel, on est à l'abri de rien. Enfin, c'est là où se rejoignent d'ailleurs les astronomes et puis l'aérospatiale, parce qu'effectivement, il faut d'abord le détecter, la météorite, et puis après essayer de la dévier. Avec des choses qui sont dans l'espace, parce qu'on n'a pas le temps de les envoyer de la Terre. Mais cette question, cette idée écologique, je pense que oui, que tout le monde sincèrement se l'est posée. Quand on a vu la Terre, vu de l'espace, donc il y a 500 astronautes qui ont volé, 50 femmes qui ont volé, je pense qu'ils ont tous eu un coup au cœur de voir la planète vue d'en haut. Et en particulier, ce que signalait Michel, c'est la toute petite épaisseur, cette toute petite membrane qui nous sépare du rien. C'est l'atmosphère, c'est 100 km de haut, c'est rien du tout.
Et c'est grâce à ça que nous sommes là.
Et c'est la grosse différence, voilà. C'est la grosse, grosse différence avec les autres planètes. Après, les astrophysiciens, nous, on voit aujourd'hui, enfin moi j'ai vécu la découverte des premières planètes extrasolaires autour d'autres systèmes solaires. Quand
les exoplanètes, oui, on ne savait même pas que ça existait, et on en découvre de plus en plus.
Aujourd'hui, les enfants, ils naissent et ils savent qu'il y a 3500 autres planètes, c'est normal pour eux, dès le biberon, alors que nous, on apprenait, voilà, il y en a 8, il y en a peut-être 9, on ne sait pas combien il y en a dans le système solaire, et puis point barre. Et puis aujourd'hui, mais le compteur ne fait que s'affoler. En fait, on en trouve de plus en plus, de plus en plus. Et puis même sans les voir, on est capable maintenant d'écouter. C'est-à-dire que nous, on est capable d'être entendus puisqu'on émet de la radio, de la télé, on émet des ondes depuis, même si on dit à peu près 50 ans, les ondes se propagent à la vitesse de la lumière. Donc on a une bulle de 50 années-lumière autour de nous où on est détectable, on est parfaitement entendable.
Ah, on peut se faire entendre par d'autres. Oui, c'est même pas la peine d'aller les...
Ah, mais on fait beaucoup de bruit. Hein. Donc, d'ailleurs, on parlera tout à l'heure de la face cachée de la Lune, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de bruit. Et à contrario, dans l'autre sens, c'est ce qu'on essaye d'écouter. On essaye de capter sur les 1000 étoiles les plus proches de notre Soleil, dans la galaxie, si on entend des choses du type des conversations d'avions de ligne, on serait capable de les repérer aujourd'hui avec nos radiotélescopes.
Ah oui, donc effectivement, il faut vraiment se
réjouir. C'est une écologie au sens large, c'est-à-dire que ce qu'on voit dans l'univers, c'est des similarités. On voit toujours les mêmes Legos qui construisent les mêmes briques de base qui amènent peut-être à la vie. En tout cas, on voit de l'hydrogène, de l'oxygène, du carbone, de l'azote, c'est les éléments les plus répandus. Et puis, on voit des chaînes carbonées, comme ça, on voit des sucres, en fait, ce qu'on appelle des sucres en chimie, dans d'autres galaxies. On est capable de les voir, nous, aujourd'hui. On voit de l'oxygène, on voit du CO2 dans des atmosphères d'autres planètes.
Donc, jusqu'où on pourra voir? Est-ce qu'on verra de la vie? On va en parler depuis la Lune, d'ailleurs, avec vous, Hélène Courtois. Mais là, je vais laisser Michel Tonini filer pour aller donner une conférence à des chefs d'entreprise. Mais je vous laisse filer au son d'une musique qui doit vous rappeler quelque chose, parce que ce sont les Américains, cette fois-ci, qui vous l'avez envoyé dans les oreilles, dans l'espace. Oui, on fait du bruit. C'était en 1999. Vous étiez Michel Tonini à bord de la navette Columbia et vous aviez choisi ça.
Heaven holds a place.
Mrs. Robinson, voilà ce que l'astronaute Michel Tonini, qui vient nous quitter, a entendu à bord de la navette Columbia dans l'espace, autour de la question jusqu'où explorer l'espace et comment. Nous sommes en compagnie de l'astrophysicienne Hélène Courtois, et auteur avec Michel Tonini des Voyageurs de l'espace, ouvrage dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs, autour de cette question de l'espace et jusqu'où et à partir d'où justement, est-ce qu'il y a des limites à l'infini, à l'exploration spatiale. Je vous propose, Hélène Courtois, d'écouter la réponse d'une autre célèbre astrophysicienne, la professeure Françoise Combes du Collège de France, première femme titulaire d'une chaire d'astrophysique au Collège, galaxie et cosmologie. On l'écoute.
Je pense qu'une des explorations qu'on pourrait faire, c'est d'utiliser la Lune comme télescope. En radioastronomie, on a déjà SKA, Square Kilometer Array, qui sera en Australie et en Afrique du Sud, qui fera 1 km² de surface. Mais on aimerait avoir encore plus de surface, et surtout pour des ondes radio, métriques jusqu'à kilométriques. Alors kilométriques, les ondes sur Terre sont réfléchies, c'est les sous-marins s'en servent là, par l'ionosphère. Donc on a besoin, si on veut regarder le ciel en ondes kilométriques, on a besoin d'aller sur la Lune. Et puis l'OFAR, par exemple, qui est un télescope européen aujourd'hui, fait par les Hollandais d'abord, et ensuite il y en a un à Nancy, donc les Français en participent. On aimerait avoir une plus grande surface, et donc il y a un projet de mise à un télescope. Un télescope, ce n'est pas un télescope comme une parabole qu'on voit sur Terre, mais c'est plutôt des dipôles qui sont distribués sur une très grande surface. Donc la Lune serait une bonne surface pour poser des télescopes radio.
Une bonne base, une bonne surface, la Lune. Hélène Courtois, vous en pensez quoi ?
Oui, moi je pense que c'est vraiment une très bonne idée, puisque effectivement la Lune a cette particularité qu'elle nous montre toujours la même face. Ça veut dire qu'il y a une face cachée de la Terre, donc elle nous tourne le dos, cette face cachée. Alors cette face cachée n'est pas dans la nuit perpétuelle, hein, ça c'est pas vrai, elle est parfois éclairée par le soleil, parfois à l'ombre, mais en tout cas elle tourne le dos à la Terre, ce qui fait que tous ces bruits que l'on émet, les ondes radio, la télé, eh bien on ne l'entend pas en quelque sorte, en tout cas on est abrité.
Donc on pourrait entendre ou observer, oui, ou voir complètement autre chose à l'abri du bruit que nous faisons nous, c'est ça en gros?
Exactement, parce que sur Terre, moi j'observe beaucoup sur un radiotélescope qui est dans l'état de Virginie occidentale aux États-Unis, et c'est une zone de 400 km² radio silencieuse, où il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de micro-ondes, très près des télescopes, il n'y a même pas de voiture à essence, parce que les étincelles du démarrage nous feraient des interférences, donc il n'y a que des... Alors les diesels ont été arrêtés d'être fabriqués il y a très longtemps aux États-Unis, donc toutes les vieilles voitures diesel, c'est des vieilles voitures comme les Elvis Presley, bleu ciel, des vieux trucks, c'est assez rigolo à voir. Mais en tout cas, effectivement, en France, Françoise Combes, qui est académicienne des sciences aussi, a cité Nancy, le radiotélescope Nancy, qui est en Sologne. Et là-bas, c'est une zone qu'on essaye de garder radio silencieuse, avec le moins possible de pylônes de téléphone portable, le moins possible de micro-ondes. Si les gens... Alors, on n'empêche pas les gens d'avoir un micro-ondes, par contre, on leur construit autour une cage de Faraday, c'est assez joli. Ça fait une sorte d'œuvre d'art contemporain.
D'accord, pour que ces ondes ne s'échappent pas et que vous puissiez tout observer.
Exactement.
Mais du coup, si on imagine qu'à partir de la Lune ou de la face cachée de la Lune, on pourrait observer plus loin ou autrement, ou envoyer autre chose aussi dans l'espace, comment est-ce qu'on ferait? Il faudrait s'installer sur place. Vous disiez vous-même que vous n'iriez pas sur Mars, mais vous iriez sur la Lune.
Sur la Lune, je rêverais d'aller sur la Lune. Ça, c'est
pour mener vos observations et vos calculs.
Mes observations. Et puis, il faut savoir qu'en science, en astronomie comme en aérospatiale, il y a énormément de métiers. On a besoin de tous les corps de métiers. Et il faut imaginer que si on décide d'aller poser un village sur la Lune, il y a une association qui réfléchit vraiment. Il y a des étudiants en architecture qui nous construisent actuellement par de la 3D, mais qui construisent par ordinateur des structures gonflables qui se déploient une fois arrivées. Ensuite, on construit en imprimante 3D par-dessus les murs avec la régolithe, c'est-à-dire le sable lunaire. Donc, il y a énormément de technologies à développer. Et puis, vous savez, l'aérospatiale et puis l'astronomie, c'est des choses qui nous font aller plus loin. C'était un des premiers discours de Kennedy qui est souvent mal retranscrit. D'ailleurs, il dit on a choisi d'aller sur la Lune, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. C'est pas ça la citation. C'est, on a choisi d'aller sur la Lune pas parce que c'est facile, mais parce que ça va nous permettre de nous dépasser nous-mêmes. Mmh. Et c'est vraiment ça, c'est le challenge en fait, le challenge qu'on se donne à soi-même. Et aller construire un village, donc on a parlé de la coopération internationale, ouais, de la paix, parce qu'en fait, la science, c'est avant tout un plaisir. C'est-à-dire que si on devait travailler les heures que l'on travaille, les études que l'on doit faire, et qu'il n'y avait aucun plaisir, il n'y aurait aucun scientifique. Cette semaine, c'est la fête de la science. Ouais. La première chose qui fait avancer, c'est le plaisir, la satisfaction de se dépasser soi-même. Et pour ça, en fait, c'est la voie du bonheur, la voie de la paix, c'est vraiment l'éducation. Et c'est pour ça que vous allez voir, à chaque fois, ces semaines de la science qui n'existent pas de partout. Hein. J'avais un collègue américain, je lui expliquais ce que c'était aujourd'hui. Au laboratoire, il me disait, mais ça n'existe pas chez nous. Et je lui disais, mais tu sais, le grand public est avide de ça parce que
c'est cette semaine en France. Et il y en a à l'international, il y a une semaine des sciences sur le continent africain également. On en reparlera à ce moment-là. Oui. Mais c'est vrai que ça commence à faire des petits, justement pour soulever cet enthousiasme-là, pour répondre aussi à nos auditeurs sur les réseaux sociaux à Kinshasa qui disaient, mais comment faire pour devenir astronaute? En fait, il n'y a même pas besoin de devenir astronaute. Si on arrive à construire une base lunaire, il y aura besoin de toutes les intelligences, de tous les bras, de tous les imaginaires.
Mais oui, on aura besoin d'un boulanger, on aura besoin de quelqu'un qui fait pousser des salades, on aura besoin d'un maçon qui
fait faire... Pour la station de radio, je pose ma candidature.
Ok, la station radio, on aura besoin d'un technicien radio ou d'une technicienne radio. Donc, on pense beaucoup à la Lune comme un nouveau modèle de société. C'est un exercice de pensée. C'est un exercice de réfléchir à un gouvernement international. C'est un exercice. Donc, tout à l'heure, Pierre Léna disait se regarder soi-même ou se connaître soi-même. Souvent, quand on regarde loin, finalement, on regarde très près. Parce que ça nous rapporte, c'est un miroir tout ça, c'est un miroir comme l'écologie, comme on se pose les vraies questions. Est-ce qu'il n'y a qu'une planète habitable? Est-ce qu'il y a une seule humanité dans tout l'univers? Et du coup, il faut que cette humanité soit capable de s'entraider, de vivre ensemble en paix. Qu'est-ce qu'on ferait? Et puis aussi, il faut se préparer en même temps, il faut commencer à se préparer psychologiquement, éventuellement, la découverte de la vie. Alors, il y a différentes formes de vie. Donc, par exemple, si on découvre un arbre, on va pas beaucoup communiquer avec un autre arbre. Mais si on découvre une vie intelligente qui communique, qu'est-ce qu'on va lui dire? Enfin, Caroline, qu'est-ce que vous lui diriez? Voilà, un cousin arrive du fin fond de la galaxie.
On y réfléchit ensemble, Hélène Courtois. On lui dirait bienvenue déjà, peut-être.
Moi, je pense que ce serait peut-être le premier mot. Et moi, je pense que la chose à faire, ce serait lui offrir un verre d'eau.
Ah, joli. Attendez, vous nous expliquerez pourquoi la prochaine fois que viendrait Hélène Courtois.
Très bien.
Mais on retient l'idée. Je vous remercie infiniment d'avoir été en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Lyon. Merci à la technicienne, j'ai oublié son nom, mais je suis désolée, qui vous a accompagné? Claire Vuillot à Lyon. Et puis, je vous renvoie sur Les Observateurs de l'ESPAC, votre magnifique livre écrit avec Michel Tonini, paru aux éditions Duno. Et je renvoie aussi à ce festival Atmosphère à Courbevoie. Mais Hélène Courtois en prend date. Hein. Moi, je veux que vous reveniez nous expliquer pourquoi il faudrait offrir à la prochaine vie extraterrestre un verre d'eau. Merci à vous.
Et que tout le monde y réfléchisse.
Ah, que tout le monde y réfléchisse d'ici là. Merci à vous. Merci, chers amis auditeurs. Un livre encore à gagner, si vous nous le demandez, par mail ou sur notre page Facebook et le journal tout de suite. 7 000